Alors que le paysage belge est clivé, isolé par les mesures Covid, les inégalités explosent et le secteur culturel est déclaré non essentiel. Pourtant, cette période est en tournant pour nos sociétés. Il est temps que l'on se réapproprie notre histoire commune, que l'on relance la culture. Bref, c'est le moment de renaître. Depuis 2018, les grèves scolaires pour le climat se sont popularisées. Ces dernières ont été initiées par la jeune Suédoise, désormais célèbre, Greta Thunberg.
We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
En Belgique, 2018 marque un tournant pour les mobilisations climatiques. La grande marche Claim the Climate rassemble 65 000 personnes pour battre le pavé dans les rues de Bruxelles. Les actions persévèrent et montent en intensité. On voit même apparaître dans le paysage belge des mouvements de convergence avec les Gilets jaunes pour une justice climatique et sociale. En mars 2019, différents gros mouvements se rassemblent et réalisent une occupation historique de la rue de la Loi afin d'exiger de légiférer pour une loi climat. L'occupation fait des vagues dans le monde politique, mais pas que. Cette action a également posé énormément de questions au sein même du monde militant. Même si les questions de lutte sociale apparaissent petit à petit dans les milieux climatiques, le climat reste la priorité. Le 24 mars 2019, l'occupation de la rue de la Loi invisibilise la manifestation contre le racisme prévue de longue date par des collectifs de lutte contre le racisme. Au sein même de l'organisation de cette action d'envergure, il s'est avéré que sous le prétexte d'urgence, les bons vieux, pas si vieux, mécanismes sexistes ont été remis au goût du jour, que ce soit dans les rôles de responsabilité, de visibilité ou dans la manière de gérer le soin aux personnes. Cependant, le mouvement se questionne et s'autocritique. Tout va bien sort une vidéo d'excuses et explique comment nous aurions dû procéder.
Ce dimanche-là, nous avons participé à l'invisibilisation de la manifestation contre le racisme prévue depuis des mois. Et il nous semblait important de le dire et de faire notre autocritique pour être cohérent avec notre ligne éditoriale.
Nous aurions dû montrer les liens entre la lutte pour le climat et les luttes antiracistes et décoloniales.
Plus tard, des actions de convergence suivent, mais très vite, l'heure du couvre-feu sonne. Et pendant un an et demi, les mobilisations climatiques sont mises sous cloche. Aujourd'hui, au lendemain de la sortie du dernier rapport du GIEC, encore plus alarmiste et effrayant que le précédent, quelles sont nos perspectives dans la lutte climatique? Avec l'intégration des points de vue écoféministes et décoloniales, comment rendre nos narratifs sur la lutte climatique accessibles et incarnés par toutes et tous? Pour cet épisode, nous avons eu la chance de rencontrer trois invités de marque pour nous parler d'écoféminisme avec Raquel.
L'écoféminisme constate qu'il y a des oppressions aujourd'hui, des oppressions envers le monde vivant et des oppressions aussi envers les femmes et aussi envers d'autres peuples ou populations qu'on pourrait appeler des plus vulnérables ou fragilisées aujourd'hui.
D'écologie décoloniale avec Ruth.
Le mot décolonial vient en fait remettre le curseur sur comment est-ce qu'on pourrait habiter autrement le monde.
Et des narratifs autour des conséquences climatiques qui dominent le cinéma et nourrissent nos imaginaires. Avec Frédéric.
Envisager la question climatique dans une perspective culturelle, c'est-à-dire vraiment la placer dans le champ citoyen, dans le champ des pratiques artistiques, dans le champ des histoires, des récits, des discours, je pense que c'est absolument indispensable.
En tant qu'acteur culturel, à Esperanza, nous pensons que nous faisons partie de la solution. Il est impératif de recréer des espaces de débat, de confronter nos points de vue, de faire front ensemble et de trouver des alternatives viables pour une société plus juste. Alors ensemble, changeons les normes et faisons un détour vers un futur démocratique, social, écologique, antiraciste, féministe et queer.
Moi, c'est Raquel Gomez et je travaille en tant qu'animatrice d'éducation permanente pour l'association Les Âmes de la Terre, qui est une association d'éducation permanente qui travaille des thématiques en lien avec la terre vivante, la simplicité volontaire, l'économie non violente, pour créer un vivre ensemble, une société qui soit plus juste et surtout plus connectée au monde vivant. Donc, tout d'abord, je dirais que l'écoféminisme, souvent on dit que c'est un peu un mouvement qui va à l'encontre du féminisme d'un côté et puis de l'écologie de l'autre. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, par rapport à la crise climatique, l'écoféminisme constate qu'il y a des oppressions aujourd'hui, des oppressions envers le monde vivant et des oppressions aussi envers les femmes et aussi envers d'autres peuples ou populations qu'on pourrait appeler voilà, des plus vulnérables ou fragilisées aujourd'hui. Et on voit qu'avec la crise climatique, elle est engendrée par des oppressions et qu'en même temps, la crise climatique engendre aussi des oppressions envers la nature, le monde naturel, donc tout ce qui est pollution de l'eau, de l'air, de nos biens communs. En gros, perte de la biodiversité, exploitation des ressources naturelles. Et puis aussi une oppression, par exemple, des pays du Nord envers les pays du Sud et aussi envers les femmes, parce que c'est l'un des collectifs aujourd'hui qui est les plus touchés, les plus impactés par la crise climatique. Et en fait, comme on voit que via l'écoféminisme, en fait, on comprend un peu mieux comment toutes ces oppressions multiples sont interconnectées les unes aux autres, ben, ça peut nous offrir une vision un peu plus élargie, en fait, de la crise climatique. Et donc, de voir qu'il y a plusieurs choses qui se passent partout dans le monde qui, en fait, ont quand même une connexion. L'écoféminisme, c'est un peu un mouvement ou un mot un peu fourre-tout où on peut trouver des actions qui vont de l'action politique jusqu'à l'action individuelle en passant par des actions collectives. Et donc, on peut dire qu'une manifestation anti-nucléaire, ça peut être de l'écoféminisme, des ateliers de reconnexion à la nature, de reconnexion à soi, aux autres, des nouvelles manières de vivre ensemble, voilà, qui explorent plutôt d'autres formes de démocratie, plus voilà, sans hiérarchie, ou voilà, même des manifestations par rapport au climat. Il y a même des actions qu'on n'appelle pas écoféministes, mais qui pour moi sont aussi des pratiques écoféministes. Mais ce que le mouvement peut apporter avec ces actions concrètes, c'est aussi en fait un changement culturel. Donc ce nouveau regard dont je parlais tout à l'heure, pour moi c'est aussi un petit peu la différence avec d'autres actions, c'est que comme il va à la racine du problème, donc le système capitaliste, il nous fait un peu comme voir le monde avec voilà, d'autres lunettes. Et donc, il dit, voilà, pour arriver à un changement des systèmes, il faut passer par un changement culturel. Et donc, nous réapproprier toute la question de nos rapports aux autres, notre rapport au vivant. Dans l'écoféminisme, c'est important l'idée de l'interdépendance avec la nature, dans le fait qu'on fait partie de la nature et donc qu'on ne peut pas vivre comme si on était complètement déconnecté. Donc, c'est beaucoup plus facile, en fait, de détruire le monde vivant si on se sent complètement découpé de celui-ci. Donc peut-être que la crise climatique n'existerait pas si on prenait conscience en fait, qu'on fait partie de la nature et que si on la détruit, bah, on se détruit aussi à nous-mêmes. Et donc voilà, tout ce travail de notre rapport à des concepts aussi comme le travail, la production, voilà, la consommation, ça fait aussi partie des réflexions écoféministes. Donc voilà, ce qu'il peut apporter en plus, c'est ce changement culturel qui est nécessaire pour un changement de système. On voit que l'écoféminisme se décline de manières différentes selon les différentes luttes qui existent dans le monde. Donc en fait, aux Amis de la Terre, on fait partie d'un réseau plus international qui s'appelle Friends of the Earth Europe. Et là, on voit par exemple que les membres de pays asiatiques vont travailler plus l'égalité hommes-femmes. En Afrique, vont travailler plus l'émancipation des femmes. En Amérique latine, plutôt la défense des territoires ou des biens communs. Et en Europe, on crée aussi des groupes de citoyennes et de citoyens pour se réapproprier la question de l'écoféminisme et voilà, travailler l'émancipation citoyenne. Donc, pour moi, l'écoféminisme, c'est un socle commun, en fait. On se rend compte que nos luttes sont ancrées dans nos territoires, voilà, au niveau local, c'est ce qui a du sens aussi. Mais qu'au final, on est toutes et tous à la même lutte, une lutte globale. Et ça, en tout cas pour l'expérience que j'ai avec le réseau international, ça nous donne de la force et voilà, de l'envie d'avancer parce qu'on sait qu'au final, c'est une lutte commune aussi. La grosse limite du mouvement écoféministe, c'est le propre nom écoféminisme voilà, en tant que tel parce que on dit que c'est l'addition de l'écologie d'un côté, puis du féminisme de l'autre, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Mais voilà, il faut un petit peu creuser la question pour comprendre tout ce que l'écoféminisme peut apporter aux crises qu'on vit aujourd'hui. Et donc, d'un côté, ça rend le concept, le mot, le mouvement peu accessible à beaucoup de personnes, voilà, certaines femmes, les hommes aussi, qui se disent « Ah non, en fait, c'est pas pour moi », le grand public en général. Et puis, d'un autre côté, la définition de ce que c'est l'écoféminisme, c'est pas si évident que ça, en fait, à cerner. Et en plus, il se décline de manière différente. On peut aborder la question d'un point de vue spirituel ou créatif. C'est aussi un mouvement académique, un courant académique, scientifique, politique, culturel. Et donc, c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout et on s'y perd un petit peu. Donc, pour moi, ça, c'est un peu la limite. C'est de, en fait, comment est-ce qu'on rend aussi le mouvement accessible à toutes et à tous pour que chacune et chacun puisse vraiment se l'approprier.
Je m'appelle du coup Ruth Palukwatoka. Je suis activiste dans les milieux, plein de milieux divers, antiracistes, féministes, climatiques, depuis déjà quelques années. Et sinon, je suis bruxellois, je suis noire, je suis trans non binaire. La définition, ce serait en fait d'expliquer comment habiter le monde autrement, de repartir de la base du mot écologie et décolonial en fait dans l'idée que l'écologie en tant que mouvement aussi a hérité en fait d'une vision assez blanche de quelles étaient les causes des dérèglements climatiques qu'on connaît depuis ces dernières décennies. Et en fait, l'écologie décoloniale vient juste remettre la question, en fait, oui, des rapports coloniaux et de quand, en fait, comment est-ce que le monde a été forgé, en fait, par les dynamiques coloniales depuis Christophe Colomb, quoi. Et comment est-ce qu'en fait la colonisation est en fait un désastre écologique? Comment est-ce qu'en fait la mise en place de plantations en fait à des milliers de kilomètres de l'autre côté de l'océan a créé des distances entre des ressources, etc. Enfin, plein de choses qui aujourd'hui font que on vit dans un monde mondialisé là où les ressources deviennent précaires parce qu'en fait elles sont loin, mais elles sont trop chères, mais elles sont beaucoup trop chères pour les personnes qui les cultivent, mais c'est pas normal. Et enfin voilà quoi, à l'exploitation des personnes, à l'exploitation des terres, à l'accaparement des terres, des choses comme ça, et toujours en parlant en fait de cette question en fait de cet héritage en fait colonial qui vient en fait justement aussi exploiter des terres de personnes spécifiques, donc de personnes racisées, racialisées, et aussi exploiter ces personnes pour cette même exploitation capitaliste, quoi. C'est intéressant que plein de d'ONG en fait vont parler des rapports nord-sud, des dérèglements climatiques, on va parler même de réfugiés climatiques, d'essayer de trouver des solutions. On essaye de pallier à des faux problèmes sans jamais en fait pouvoir essayer de trouver une solution pour des réfugiés climatiques. Ça résout pas le fait qu'en fait par exemple il y a des dettes coloniales illégitimes qui existent et en fait qui mettent plein de pays anciennement colonisés dans l'embarras, pour pas dire d'autres mots. Il n'y a pas moyen, en tout cas pour moi, de ne pas aborder les questions d'écologie sans parler des questions coloniales. Et par exemple, en fait, ce qui est intéressant, moi, dans mon parcours en tant qu'activiste, c'est aussi de voir, en fait, comment est-ce que les narratifs se construisent au présent, quoi. Parce que là, du coup, on parle de mémoire coloniale, etc. Mais comment est-ce que les narratifs se construisent au présent? C'est aussi des narratifs qui oublient, en fait, que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ben en fait on est en plein Bruxelles, on vit aussi dans une ville construite en fait sur un peu une ségrégation entre des quartiers populaires, etc. Qu'en fait ça a des incidences aussi sur des questions écologiques, même dans le milieu urbain. C'est intéressant parce que au tout début, genre il y a peut-être en 2018 quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, et du coup je me suis intéressée à regarder est-ce qu'en fait il y avait une incidence climatique à vivre dans un quartier populaire. Mais du coup j'ai regardé un peu s'il y avait des études sur Bruxelles, il n'y en avait pas vraiment beaucoup, et du coup il y avait peut-être juste quelque chose qui disait oui, pollution de l'air, etc. Mais on n'arrive pas vraiment à savoir où est-ce que l'incidence elle est au niveau physiologique pour les personnes, quoi, par exemple, de savoir si ça touche certains quartiers ou pas. Et est-ce que, par exemple, la présence d'espaces verts à certains endroits va pouvoir capter justement cette pollution, enfin, des choses comme ça, etc. Mais je me suis intéressée à Paris, qui est hyper intéressant parce que du coup, la construction de Paris, c'est cette patate, quoi. Et à l'extérieur, il y a les banlieues, quoi. Et donc, du coup, la distinction entre quartier populaire et banlieue est assez claire. Alors qu'à Bruxelles, ben, il y a toute cette histoire de quel côté du canal tu te trouves, en fait. Est-ce que t'es dans le croissant pauvre ou pas? Mais c'est beaucoup plus difficile à étudier. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, je tombe sur une étude qui concrètement explique que parce que tu vis dans un milieu populaire, en fait, tu es probablement beaucoup plus sujet à genre de la pollution sonore. Donc en gros, on va dire, vivre près de grandes industries. On pourrait prendre, je sais pas, l'exemple de Van Praat à Bruxelles, par exemple. Il y a beaucoup de... La gare de Scarbeck qui arrive, des industries qui sont là et quelques grands bâtiments, le quartier Collignon par exemple à Scarbeck. Mais ce qui était intéressant en fait, c'était là, du coup, l'incidence sur les personnes qui sont là, qui du coup sont majoritairement des personnes racisées, comme on le sait. Et en fait, l'incidence c'était que tout simplement, en fait, il y a une médecin qui a remarqué que en fait, des nourrissons, plein de nourrissons en fait, avaient des problèmes d'audition. En fait, à cause de l'insalubrité des HLM, qui sont mal isolés, et souvent ben, des problèmes d'asthme. Ce qui est intéressant en fait dans tout ça, dans tout ce que je dans toute cette histoire, c'est pas tellement de savoir en fait comment est-ce qu'on parle en fait des personnes racisées en fait dans les questions d'écologie, mais c'est de savoir qu'en fait l'incidence même de la colonisation en tant que qu'histoire et que système et que qu'agencement des personnes dans l'espace public et de comment est-ce que de définir en fait comment est-ce que les gens vont vivre, comment est-ce que les gens vont être exploités, etc. Ça a une incidence sur les corps en fait. Et c'est ça ce qui est hyper important, en tout cas au niveau de l'incidence des questions climatiques et des dérèglements climatiques sur les personnes racisées. C'est ce que je trouvais assez, on va dire, faible, des fois dans les narratives, je dirais, que je vais nommer blanches, qui vont parler en fait de manière très technique en fait, de la question climatique, qui est une question aussi technique, mais qui en fait va du coup déshumaniser en fait la question climatique. Et c'est déjà un processus qu'il y a quand on parle de questions de raciales, etc. Un processus, en fait, qui va plus parler de la question climatique comme une question qui va toucher les corps des personnes. Et quand les corps des personnes sont déjà, en fait, racialisés dans la société, ben oui, certains corps vont être plus touchés que d'autres. Et du coup, ça veut dire la mise en exploitation des personnes racisées durant la colonisation. Je veux dire, le fait que des personnes aient dû traverser l'Atlantique, perdre tout un héritage en fait culturel, etc., ou recréer un héritage culturel, d'avoir dû exploiter la terre, empoisonner la terre dans laquelle on les a déplacés, de se nourrir de ces poisons, par exemple, quand on parle de la Martinique, de la Guadeloupe, dans l'actualité avec les questions de pesticides et des poisons déposés par l'État français. Mais c'est des choses... Ça touche au corps, mais ça touche aussi à la psyché, en fait. Ça touche à la psyché de savoir comment est-ce que ça se fait que maintenant, du coup, je suis un corps empoisonné dans un pays qui est en fait encore sous domination française. Qu'est-ce que ça fait aussi de savoir, en fait, que tu contamines tes enfants? Donc, la question que, donc moi, ce que je trouve intéressant quand je parle aussi des questions raciales, c'est juste de revenir à un côté aussi humain. Et je pense que c'est génial qu'il y ait des personnes qui parlent de la technique, etc. Mais au niveau humain, en fait, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? Get it on my way, let them know. I drop a couple of waves, that got my people go wait. Still not enough, more size, they stay like Dumbo. Aligned with the greats. I could be more than I gotta be broke chains all by myself. I'm drunk on the water mentality, this the anthem for my freedom. Yeah, that's that rhythm. Muscle flexing, all y'all don't catch the whipping. Get it? I went the other way, knowing the other same. Real blood in my vein. I done told you before, dealing with different breed. They won't show me the door, like they're running deep. Shut up in the feelings, they're emotional. They think I'm a dumbo, but I am the bongo on my way. God is my witness, I'm on my way. I'm a
je suis Frédéric Muller, je travaille chez Point Culture et je suis responsable des projets environnement. Donc j'achète les documentaires qui sont ensuite dispatchés dans le réseau des Point Culture. Et je travaille beaucoup sur le cinéma de fiction pour regarder un petit peu quelles sont les représentations qui sont véhiculées, et on publie des outils papier, des outils numériques pour aider à utiliser les films dans une démarche de sensibilisation, de réflexion. Alors la question climatique, jusqu'à présent, elle est beaucoup traitée sous un angle scientifique. C'est devenu vraiment une question traitée par les experts, avec un vocabulaire d'experts, avec beaucoup de faits, de chiffres, les courbes. C'est assez emblématique quand on parle de la question climatique. Et je trouve que c'est une approche qui peut être assez excluante, qui n'est pas non plus très efficace. Et puis sur le plan démocratique aussi, je trouve que c'est un discours qui peut être assez problématique. Du coup, par rapport au traitement de la question climatique, je trouve que ouvrir vraiment tout à fait les approches possibles, les croiser, donc inclure la question démocratique, mais inclure aussi, enfin, envisager la question climatique dans une perspective culturelle, c'est-à-dire vraiment la placer dans le champ citoyen, dans le champ des pratiques artistiques, dans le champ des histoires, des récits, des discours, je pense que c'est absolument indispensable pour que chacun puisse, de là où il est, s'emparer de cette question, avec tout ce que ça évoque pour lui, en termes de compréhension du problème, mais aussi en termes éventuellement de solutions. Et du coup, moi, je travaille beaucoup sur le cinéma, donc beaucoup sur les images, beaucoup sur les histoires. Ça me semble vraiment très très pertinent aujourd'hui, parce qu'en fait, ces faits scientifiques n'existent jamais sans le sens que les histoires leur donnent. C'est super intéressant de regarder ce que le cinéma nous raconte par rapport aux thématiques environnementales. Quand on parle de la question climatique, je pense que chez presque tout le monde, on a des images de cinéma qui émergent dans nos imaginaires, dans nos pensées. On s'y réfère consciemment ou pas, mais je pense qu'il y a vraiment des idées qui ont nourri le cinéma et que le cinéma nous renvoie en retour. Et donc, ça fait une espèce de boucle comme ça, qui peut être enfermante à un moment donné. Et le cinéma, pour moi, il est vraiment majeur parce que c'est un vrai compagnon de la modernité. Et dès les premiers films, le cinéma, il s'est montré fasciné par l'industrie, la mécanique, la conquête. Il a filmé des trains, il a filmé des sorties d'usines, il a filmé la conquête de la Lune. Ce sont vraiment des thèmes qui sont présents dès le début du cinéma, ainsi que la place de la voiture, la place de la mécanique. Donc ça, c'est vraiment un témoin parfait pour nous signifier, enfin pour nous montrer quel récit nous a accompagnés. Je ne sais pas si c'est un outil utile actuellement, en tout cas il est puissant et il est efficace pour coloniser nos imaginaires, et donc ce serait tout à fait pertinent de s'en emparer pour cesser de raconter la même histoire. Maintenant, aujourd'hui, très clairement, le cinéma évolue dans un cadre qui est très occidental, un cadre qui est aussi assez masculin, et donc forcément il y a certaines limites dans son discours. Et puis le cinéma, c'est aussi un enfant de l'anthropocène, donc c'est aussi un art qui est très consommateur d'énergie et qui met en scène depuis les débuts de la modernité la mise en œuvre de l'utilisation de cette énergie. Maintenant, dans le cinéma, il n'y a pas que de la fiction, il y a aussi du cinéma documentaire, et dans le cinéma documentaire, là, il y a une vraie richesse et une vraie diversité. Je trouve qu'il y a même plus de liberté dans le cinéma documentaire aujourd'hui que dans la fiction. Je perçois le cinéma de fiction, donc ça c'est ma réception, mais comme des narratifs qui sont assez contraints. J'ai l'impression qu'au documentaire, il y a plus de place à la subjectivité, plus de place au portrait, et une plus grande envie aussi d'aller vers des choses qui sont désirables. Et ça, pour moi, c'est la vraie question. Parce que penser les possibles, c'est vraiment une question très très vaste et très très complexe. Et ce que je perçois quand je fais des animations ou quand je parle du cinéma, c'est que l'enjeu, il est de créer des possibles qui fassent envie, de créer des désirs en fait, de réinventer des rêves et des désirs. De pas tout le temps voir ça comme un retour en arrière, des contraintes, de voir en fait comment les visions de l'avenir peuvent faire rêver aussi. Pour moi, la ligne, c'est la verticalité, Donc c'est très clairement les tours, mais les tours c'est aussi ce qui nous éloigne du sol, ce qui nous éloigne du terrestre, de l'humain, et aussi si on va un peu plus loin, de tout ce qui est animal, émotion, organique. C'est vraiment une trajectoire qui imprime très très fort la modernité. La ligne, c'est aussi la linéarité du temps, c'est-à-dire vraiment se raconter comme partie prenante d'une histoire qui a un début, qui suit une route et qui a une fin. Ça, au cinéma, la mise en scène de la chute, de la fin, ou du point de basculement, c'est vraiment aussi un grand thème. Et c'est important aussi de saisir cette image-là pour voir comment ça nous place dans une situation où on n'arrive pas à imaginer un au-delà, voire une bifurcation. À un moment donné, comment on peut s'éloigner de cette trajectoire? Typiquement, dans la rue, quand on parle de revenir à un niveau de consommation moins intense, souvent on entend cette idée qu'on ne va pas revenir au Moyen-Âge quand même. Le Moyen-Âge, c'est vraiment une époque qu'on entend souvent référer, qui est aussi assez fréquemment développée au cinéma, où on imagine un peu des petits villages avec des gens habillés en toile de jute. C'est vraiment un univers fantasmé au cinéma qui est fort présent pour imaginer ce retour en arrière. Donc, moi, j'y vois quand même comme une espèce de curiosité. Là, enfin, on se raconte qu'il y a eu ici quand même quelque chose de marquant sur cette ligne, un point où on serait menacé de revenir en arrière. Et ça, pour moi, c'est assez problématique de s'imaginer qu'on est sur une ligne, qu'il n'y a pas de voie de côté, et que forcément, réduire notre consommation ou changer notre mode de vie, ça veut dire régresser sur cette ligne. Et le troisième élément que je vois dans cette figure de la ligne, c'est aussi la ligne qui clive, en fait. Typiquement, dans les films, ce sont ces villes closes, toutes ces villes qui sont closes par des murs, des murailles ou des barrages d'entrée, ou alors où l'entrée a un coût. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, qui peuvent survivre à l'intérieur d'une zone protégée ou bénéficier du minimum de confort ou de ressources qui restent. Et ça exclut beaucoup d'autres qui souvent sont mis à profit. C'est un motif qui est fort développé pour le futur et dont on voit tout de suite très bien les liens avec le présent aujourd'hui. Et c'est valable pour les trois points, cette verticalité, linéarité et inégalité sociale. Ces trois éléments que le cinéma développe fort au futur et qui résonnent très fort déjà dès maintenant.
Nos intervenants et intervenantes sont unanimes sur un point. Il est urgent de lire la crise climatique avec une lecture des oppressions, des dominations sur les vivants, à savoir les peuples, les genres et la terre, par exemple. Pour pouvoir se projeter vers un avenir, il y a un besoin de reconnaissance et de mémoire de l'histoire, notamment vis-à-vis de notre passé colonial. Il faut nous reconnecter à nos racines pour envisager le présent et se reconnecter à nos vécus, au concret. Enfin, cela doit pouvoir contribuer à un changement culturel, de nos récits, de nos histoires, de nos perceptions du monde, mais aussi de l'avenir. Laisser la place à de nouveaux narratifs nous permettra aussi de nous détourner de ce à quoi nous serions prédisposés, comme la perpétuité des rapports de domination, ou encore de cette ligne qui serait un grand basculement du monde, de l'univers. La culture, les histoires sont un réel outil pour nous aider à avoir une vision du monde plus juste et à éviter les raccourcis. Réinventer des rêves et du désir. Et oui, l'avenir peut faire rêver. Alors oui, faisons un détour vers un futur dont l'écologie est décoloniale et l'écologie est féministe et dont l'urgence de la ligne à ne pas dépasser ne serve plus à excuser l'invisibilisation ou l'exploitation des autres. Ce podcast a été réalisé par Esperanza Music Festival en collaboration avec Tout va bien dans le cadre de sa campagne en éducation permanente, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors tout d'abord, un grand merci à Malaika et Fred, merci à Radio Panique pour son accueil, merci à Ruth pour le Climate Justice Camp, à Raquel pour les Amis de la Terre et à Frédéric de Point Culture pour leurs interventions. Merci à Laura pour sa sélection musicale de feu. Vous pouvez retrouver les détails de celle-ci dans les retranscriptions de cet épisode. Et encore un tout grand merci à Ultravague pour son montage et mixage, et spécialement à Cassie pour ses nombreux conseils. Merci également au travail des personnes du Village des Possibles qui sont venues alimenter les prémices de ce projet et que l'on retrouvera dans les prochains épisodes.